Alors, mes amis, dans cette matinée du dimanche 26 novembre, nous allons avoir notre dernière étude sur les faits divins et nos sentiments, et le troisième volet, jusque vainqueur par celui qui nous a aimés. Et je vais lire une fois encore ces versets. J'ai espéré, et je vous l'ai dit, et je me répète, que vous les connaissiez par cœur. C'est pour ça qu'on pourrait essayer de dire tous ensemble par cœur. Avec ceux qui le savent vraiment, qui encourageront les autres si vous avez la même version. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui
qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamne? Jésus mort. C'est magnifique. Vous voyez qu'on arrive quand même, hein, à savoir cela par cœur. Et c'est pas seulement aujourd'hui que nous aurons ces versets dans nos cœurs, mais c'est pour demain, c'est pour les jours qui vont venir, quand l'une ou l'autre de ces tribulations pourrait survenir, nous saurons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, donc, c'est une retraite qui va se prolonger dans vos foyers, dans vos activités les plus diverses. Dieu le repère. Nous te bénissons parce que si la figure de ce monde part, et si nous-mêmes aussi nous passons et pouvons disparaître, ta parole demeure. Et c'est cette parole que nous avons chercher à faire connaître, que nous avons à cœur de prêcher jusqu'à notre dernier temps, que dans ta bonté, tu nous donnes ta grâce ce matin, que tu illumines notre intelligence, que tu renouvelles notre mémoire et que tu orientes notre volonté pour que nous soyons vraiment unis à tous tes désirs et que tu aies en nous des cœurs qui te soient agréables pour la gloire de ton nom et comme réponse à l'immensité de ton âme. Amen. Bien, mes amis, tout à l'heure, j'ai fait une marche, et en voyant cette neige si blanche, je me disais, mais c'est vraiment merveilleux. La question de nos péchés qui nous trouble si souvent, elle est
réglé. Si vos péchés sont rouges, comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et en voyant cette étendue blanche, tout immaculée, là, la neige n'est pas souillée, il dit, mais voilà, si vous pouvez partir de cette retraite en ayant cette assurance, c'est un fait que toutes nos fautes ont été effacées. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. C'est un fait. Et c'est aussi blanc que la neige. Alors vous ne vivez plus avec ce sentiment de culpabilité. Vous êtes des pécheurs, je suis un pécheur. Mais c'est terminé aux yeux de Dieu. Et il nous voit dans cette pureté éclatante. Blanc comme la neige. C'est pas seulement un cantique. Blanc plus blanc que neige. Mais c'est une réalité. Et je veux croire que vous vous souviendrez aussi de ce paysage qui nous remémore les choses que nous avons entendues. Nous avons entendu quelqu'un nous parler du haut des cieux. Quelqu'un nous dire que si nous voulons vaincre par lui, eh bien, nous ferons l'expérience que le Dieu d'Israël, le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous ces hommes, est notre Dieu, et que nous sommes ses enfants, ses fils. Comme nous l'avons dit ce matin, nous ne voulons pas résister à cette vision céleste, car nous avons été visités d'en haut. Je n'ai pas été rebelle, dit l'apôtre Paul dans une autre version, à cette vision céleste. Où je n'ai pas désobéi à cette vision. Et a vu le Seigneur, et maintenant il va suivre le Seigneur. Et hier soir, nous avons vu comment nous pouvions avoir la victoire. Une victoire complète. Être pas seulement des vainqueurs, mais des survainqueurs. C'est comme ça qu'il faudrait le traduire. Plus qu'un vainqueur. Ça, c'est un fait divin. Mais on est vainqueur par qui? Par celui qui nous a aimés. Alors vous dites, oui, mais c'est beau, il nous a aimés. C'est un fait. Mais est-ce qu'il nous aime encore aujourd'hui? Est-ce qu'il nous aimera demain? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Qu'il vous a aimé, vous avez la croix qui vous rappelle cela. Mais est-ce qu'il vous aime aujourd'hui? Où trouvez-vous cela? Oui. Il est le même aujourd'hui éternellement. Mais est-ce qu'il y a pas un verset qui dit « à celui qui nous aime » N'est-ce pas? C'est très précis la parole. C'est où cela? Dans Apocalypse, chapitre 1, n'est-ce pas? « À celui qui nous aime. » Non seulement il nous a aimés, mais il nous aime. Est-ce que vous êtes conscient de son amour aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez? Lui, il vous dit qu'il vous aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé? Ici? Mais en tout cas, si moi je n'ai pas pu vous aimer comme j'aurais voulu, il y a quelqu'un qui vous aime. Et qui est merveilleux. À celui qui vous aime. Ça me fait me rappeler qu'il faut faire attention quand on veut parler à toutes les âmes et qu'on est toujours sous pression parce que il faut qu'on rende témoignage. Il y avait un monsieur dans le train qui voulait vraiment rendre témoignage, ne pas laisser passer une occasion. Et il y avait une belle jeune femme devant lui, en face de lui. Puis il la regardait, il priait intérieurement. D'un coup, il lui dit,
Madame, vous savez que quelqu'un vous aime. Elle a presque tiré la sonnette d'alarme. Alors, faites attention. Quand on évangélise, on veut tellement les convaincre. Vous avez quelqu'un vous aime. Ayez du discernement et de la prudence. Mais c'est vrai que le Seigneur nous aime. Chapitre 1 de l'Apocalypse. Il nous a pas seulement aimés, et nous ne sommes pas seulement vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais nous sommes aimés. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés ou lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. C'est quelque chose, mais c'est fait. Il a fait de nous un royaume. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous sommes les fils de son amour. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son amour, du fils de son amour. Puis, vous pourriez prendre tous ces autres passages où il est parlé de, du Seigneur. Il ne nous a pas seulement aimés, mais il est celui qui nous a appelés. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il est celui qui vous a appelés. Alors, est-ce qu'il se repent de son appel? S'il vous a appelé, est-ce qu'il va se repentir de son appel? L'appel de Dieu, il est sans repentance. Quand Dieu appelle, c'est fait. Il est celui qui nous parle des cieux. Hébreux 12, verset 25. Il est celui qui a supporté toutes les contradictions de la part des pécheurs contre lui-même. Et dans chapitre 12 des Hébreux, il nous dit, mais regardez à celui qui a enduré toutes les contradictions, pour que vous ne soyez pas las et découragés dans vos âmes. Vous avez des oppositions, vous avez des contradictions, mais regardez à Jésus qui les a eues, ces oppositions et ces contradictions. Et vous ne serez pas découragés. Mais ne regardez plus à vous-même. Vous êtes tombés. Est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? C'est ce que vous trouvez dans le livre de Jérémie. Est-ce qu'on se détourne? Vous vous êtes détourné? Est-ce qu'on ne revient pas? Est-ce que c'est pas l'heure pour vous? En ce 26 novembre 1989, de revenir même si vous vous êtes détourné. C'est l'heure de la grâce. Que ce soit tôt ou que ce soit tard, disait Paul. À qui disait-il ça? À un homme qui vivait dans l'inceste. Il avait encore espoir pour Agrippa, qui était là avec sa propre sœur, comme mari et femme. Il vivait dans l'inceste. Eh bien, vous voyez, l'apôtre Paul, il leur a prêché la grâce. Que ce soit tôt, que ce soit tard, puissiez-vous tous être comme moi. Voilà le cœur de Dieu dans l'apôtre Paul. Et Hébreux 10, il est dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Croyez-le, ça c'est un fait. Mais il nous dit aussi que celui qui doit venir, qu'est-ce qui arrivera? Il viendra. Celui qui doit venir, viendra. Est-ce que vous croyez au retour du Seigneur? Il reviendra. Alors nous vivons dans cette attente. Et qu'est-ce que cela nous donne? L'espérance de son retour. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Quand on a l'espérance de son retour qui nous habite, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des lieux où l'on ne va plus. Parce que quand on se dit, je voudrais pas que le Seigneur me trouve là à sa venue. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Je ne voudrais pas que le Seigneur me trouve en train de faire cela quand il viendra. Parce qu'on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Il n'y a pas d'espérance plus sanctifiante que le retour du Seigneur. Ça nous sanctifie.
celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce Jésus qui était abaissé pour un temps, il est maintenant élevé dans une gloire aussi haute qu'a été profond son abaissement. Et puis, l'apôtre Paul faisait l'expérience que lui, il pouvait tout par celui qui le fortifie, hein, toujours celui, par celui qui le fortifie. Et dans l'épître aux Éphésiens, nous lisons encore que Dieu peut. Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, il peut faire quoi? Au-delà de tout ce que nous pouvons espérer et penser. Et, mais est-ce que nous croyons à ces vérités? Est-ce que nous sommes habités par ces vérités ou bien c'est des textes bibliques qu'on a dans une boîte qu'on tire de temps à autre? Ou bien pour être encouragé? Ou bien est-ce que ces versets nous habitent? Est-ce que cette parole habite en nous avec plénitude? Celui qui n'a pas commis le péché, il l'a fait péché pour nous. Pour que nous, nous devenions quoi? Justice de Dieu. Justice de Dieu en lui. Vous êtes justifié en Jésus. Je veux croire que vous êtes maintenant convaincu que Dieu ne peut pas vous abandonner. Est-ce que Dieu peut cesser de vous aimer? Dieu ne peut pas plus cesser de vous aimer que d'aimer son propre fils. S'il devait cesser de vous aimer, c'est qu'il n'aimerait plus qui? Son fils. Alors, est-ce que Dieu ne peut ne plus aimer son fils? C'est pas possible, hein? Alors, il ne peut pas cesser de vous aimer. C'est définitif. Vous ne trouvez pas que c'est encourageant? Ça vaut tous les produits pharmaceutiques. N'est-ce pas pour être un vrai tonique? Et vous ne ferez pas une dépression après? Il n'est pas question qu'ici on vous gonfle. Il est question que vous nourrissiez de cette parole. Le Père peut-il ne plus aimer son fils? Quelle est la réponse? Jésus l'a dit, chapitre 5 de Jean, le Père aime le fils. C'est beau, hein? Jésus a dit, le Père aime le fils. Et qu'est-ce qu'il fait pour le fils? Prenez ce verset 20 du chapitre 5 de Jean. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Que le Seigneur va lui-même vous montrer tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Donc, vous voyez, tout est devant vous. Vous pouvez vous attendre à ce que le Seigneur vous dirige. Mais alors, vous soyez dans la dépendance. N'allez pas tout seul. Suivez-le, comme Jésus. Il ne disait rien, je le répète souvent, mais je le répéterai encore. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Cessez de regarder ce qui se passe dans le monde pour imiter ce que fait le monde. Mais cultivez votre relation avec le Seigneur et pour savoir ce que le Seigneur faisait, lisez les évangiles. Pour savoir ce que le Seigneur pensait, qu'est-ce que vous devez lire? Les psaumes. Parce que les pensées du Seigneur ne nous sont pas toujours données dans les évangiles. Dans les évangiles, ce qui nous est donné, c'est les actes et les paroles du Seigneur. Tandis que quand nous lisons les psaumes, nous voyons ce que le Seigneur pensait par l'esprit prophétique. Le psaume 22, par exemple, vous voyez ce qu'il pensait quand il était sur la croix. Et quelle était sa prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce matin, j'étais saisi par cette pensée. Au fond, Jésus, il n'a eu qu'un pourquoi avec son Père. C'est celui de la croix. Et ce pourquoi, c'était pour nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, vous? Moi, je sais. Écoutez-moi. Alors, vous comprenez l'amour du Père pour vous? Il vous a aimé au point de donner son fils. On est de nouveau dans Romains 8. S'il vous a donné son fils, comment ne vous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Alors nous arrivons à nos fameuses questions qui vous ont occupé ce matin. Les derniers versets de ce chapitre. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a retenu et qui laisse encore du doute dans votre cœur? Ou bien est-ce que vous pouvez dire, j'ai l'assurance? Que vous pouvez le dire. Ça ne suffit pas d'avoir appris par cœur. Il faut que cette assurance soit réelle. J'ai l'assurance. Est-ce que c'est une assurance ou bien est-ce que c'est simplement une espérance? J'espère. J'espère que demain, il fera beau. C'est possible. Mais il est possible aussi qu'il neige. Alors, c'est plus qu'une espérance, c'est une assurance, c'est une certitude. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. J'ai l'assurance. Avoir la certitude des faits divins. Non de nos sentiments, on ne s'occupe plus de nos sentiments. Je crois que Dieu a dit. L'avez-vous cette assurance? J'ai l'assurance. Et alors vous voyez que l'apôtre a passé en revue les puissances les plus redoutables et les plus mystérieuses du monde créé. Dans la première, j'ai parlé ici de trois séries d'épreuves. Dans la première catégorie d'épreuves, nous disions les combats intérieurs de la foi contre le doute. C'est quel verset qui nous montre ce premier combat? Que dirons-nous donc à ces choses? Ces choses, c'est qu'il n'y a plus de condamnation, que tout concourt à notre bien, que nous sommes prédestinés, que nous avons été appelés, justifiés et déjà glorifiés. Dans la... Alors, qu'est-ce que nous pouvons ajouter à ça? Est-ce que vous avez un doute? Le doute peut venir, mais de qui viendrait-il? De Satan. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Vous en êtes sûr? Et où nous donne-t-il la preuve qu'il était pour nous? Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous en ce que lorsque nous étions des saints, encore pécheurs. Christ est mort pour des justes, pour des impies. Pesez tous ces mots. Christ est mort pour des impies alors que nous étions encore pécheurs. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous. Alors, s'il le constate en regardant la croix, nous aussi, c'est en regardant la croix que nous constatons l'amour que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons pas douter. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et voyez, nous tous, est-ce que c'est une sélection? Est-ce que c'est seulement pour une élite? Pour des gens extrêmement spirituels? Non, nous tous, des impies, des pécheurs, il n'y a pas d'exception. Comment ne nous donnera-t-il pas, si toute chose avait été... Qu'est-ce que c'est que le doute? Vous l'avez compris? Qu'est-ce que c'est que le doute quand vous avez un doute? C'est un péché. Alors confessez-le. Humiliez-vous. Vous doutez de Dieu, mais c'est une offense. Pardonne-nous nos offenses. Mais c'est une offense. Dieu a dit cela, puis je mets cela en doute. Quand un enfant ne croit pas la parole de son père alors qu'il connaît son père, mais c'est une offense pour le père. Est-ce que vous pensez ne pas accomplir ce que vous voulez pour votre enfant? Ce que vous avez décidé, vous désirez l'accomplir. Et vous voulez que votre enfant soit sûr de vous. Et un petit enfant, il est sûr de la parole de son. C'est pourquoi ne mentez jamais à vos enfants. Parce que si vous leur faites une promesse et que vous ne la tenez pas, c'est fini. Ne faites pas de promesses inconsidérées. Est-ce que vous avez dit? Eh bien, accomplissez-le. Parce que c'est cela notre Dieu. Dieu a parlé. Et il accomplit ce qu'il a dit. Nous devons avoir le caractère de notre Père des cieux. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de lui, eh bien vous avez sa nature. Ma relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est une relation de nature. J'ai eu un père, j'ai eu une mère, par la grâce de Dieu. Mais mon père et ma mère, c'était pas une question sentimentale. C'était mon père et c'était ma mère. Je sais que je suis issu d'eux. C'est pas sentimental. Je pouvais avoir plus ou moins d'affection pour mon père et ma mère. Ça n'empêchait pas que c'était mon père et ma mère. Bien, nous avons avec Dieu une relation de nature. Je pouvais être désobéissant. Mais est-ce que je n'étais plus le fils de mon père et de ma mère? J'étais toujours leur enfant. Mais ce que eux ne pouvaient plus me témoigner, c'était leur communion, si je désobéissais. Et ils devaient se dire, ils devaient me faire sentir qu'ils ne m'approuvaient pas dans cette chose-là. Et comment est-ce que je pouvais retrouver la communion, la joie dans la relation avec mon père et ma mère en demandant pardon, n'est-ce pas? Alors, un père et une mère, tout ce qu'ils désirent, c'est le retour de leur enfant. Et voilà, reprenez ces exemples pour vous dans votre vie quotidienne. Alors, qui accusera des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voilà, quand Satan vient et qu'il se fait de nouveau l'accusateur, est-ce que vous allez douter? Vous allez vous désespérer? Il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est vous désespérer. Le désespoir, c'est quoi? C'est un péché. Le doute, c'est quoi? C'est un péché. Les soucis, c'est quoi? Ce sont des péchés. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis. Quand vous vous faites de soucis, vous servez de maître. Et il est dit, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est pourquoi je vous dis, ne vous mettez pas en situation. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou on aime l'un et on hait l'autre, etc. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis. Donc, quand je me fais du souci, je suis en train de servir deux maîtres. Ou d'essayer de servir deux maîtres. Je ne suis plus simplement avec le Seigneur. Alors, comment avancer en appelant ce qui nous trouble un péché? Alors, si vous savez ce que c'est, vous pouvez être délivré. Et c'est pourquoi je vous disais que je ne me suis jamais trompé quand je me suis humilié devant Dieu. Humiliez-vous de la puissance de Dieu. Parce que celui qui nous habite, le Saint-Esprit, est une personne très sensible en nous. Et il parle, et il veut que nous restions joyeux. Si j'ai une ombre, eh bien, le Seigneur me montre que j'ai peut-être détourné les yeux de sa face glorieuse. Alors je m'en humilie. Donc, vous voyez, ces combats intérieurs, ces combats de la foi, qu'on te dit. Le doute vient du diable. Quand je regarde à ma marche, j'ai manqué. J'ai glissé. Mais pourquoi est-ce que j'ai glissé? Parce que je ne regardais pas à Jésus. Alors, je m'en humilie. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus, comme j'ai souvent souligné, et pécher. Sans que j'ai mes regards sur lui. Là-bas. Mais, évidemment, tout ce qui est dans le monde essaye de me détourner du Seigneur. C'est pourquoi, dans la prochaine rencontre, nous allons étudier très à fond le rôle de nos sens. Comment voulez-vous avoir de belles pensées et de saines pensées et pures si vous êtes en train de contempler un film pornographique? Vous êtes un surhomme. Hein? C'est lamentable. Dans une réunion comme celle-ci, dans une communauté évangélique, à la fin, on a permis de poser des questions. On va l'avoir dit une fois ici. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, mais monsieur Racine, vous trouvez que c'est mal de regarder le soir un film pornographique? Je lui ai dit, vous trouvez que c'est bien? Il a dit, ça nous met en train avec ma femme. Alors, mais comment voulez-vous, n'est-ce pas, que nous... Est-ce qu'il faut un film pornographique pour aimer sa femme? Pour se mettre en train, sinon oui. Non, écoutez, oui, nous sommes des dingues. Puis alors, avec ça, on est évangélique. Moi aussi, je dirais très évangélique. Je sais très bien ce qu'est ma nature. Mais je sais que il y a des choses que je ne dois pas regarder. Il y a autre chose. puis il y a des choses qu'on ne doit pas écouter. Parce que si on les écoute, ça nous revient. Vous savez très bien ces petites chansons qu'on entend tout le temps, ça nous revient. Même dans les moments où nous devrions être vraiment en prière, on est distrait. Il y a ça qui est venu. Alors, nous voulons chasser ça. Mais il ne faut pas vous étonner que ça soit comme ça chez vous. C'est votre chair. C'est la chair. Et elle est là, elle ne s'améliore pas. La chair, c'est la chair. Nous en avons fini avec la chair. Nous avons crucifié la chair. Nous ne voulons pas nourrir la chair. Or, il y a beaucoup de chrétiens, ils nourrissent la chair. Alors, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Mais il y a une victoire dans le Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous reconnaissons que tout vient du péché et que nous appelons le péché par son nom. C'était une très grande délivrance quand j'ai compris que mes soucis étaient des péchés. Et que comment je peux me débarrasser d'un péché en le confessant? Comment est-ce que je peux me débarrasser de mes soucis? En les confessant comme des péchés. Rejetant sur lui tout fardeau et le péché qui nous enveloppe précisément. Les soucis et les péchés, c'est de la même famille. Alors vous passez au deuxième cercle d'épreuve. Donc vous avez le combat de la foi contre le doute. Vous vous emparez de la parole, vous dites, il est écrit. Et c'est ça qui compte. Maintenant, il y a les épreuves qui viennent des menaces des hommes et du monde. Et qui sont toutes personnifiées. C'est les versets, alors, 35e, hein. Qui nous séparera de l'amour du Christ sera, et vous avez les sept choses qui sont personnifiées. On ne peut pas échapper à ses souffrances, Jésus les a connues, il les a traversées, il en a été vainqueur, et c'est en lui que nous avons la victoire. C'est ce que vous avez vu hier soir. Et par toutes ces afflictions, Dieu nous façonne à l'image de son. Donc, ça fait partie du programme. Alors, nous ne sommes pas étonnés que nous ayons ces choses. Mais ça ne nous fait pas douter. Puis, nous ne pensons pas, oh, si j'ai cette épreuve, c'est parce que Dieu me punit. Non. Quand Dieu a éprouvé Abraham, c'était pas pour le punir. C'était pour augmenter sa foi. C'était pour lui donner une manifestation de sa foi. Quand Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, c'était pas parce que Job avait des fautes. Il était parfait, droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Mais ce que Dieu ne voulait pas, c'est qu'il se sente propre, juste, hein, qu'il se dise ça vient de moi et qu'il ne connaisse pas la grâce. Si tu es debout, c'est par la grâce. De sorte que tu ne peux pas t'énorgueillir. Parce que si tu commences à te redresser vis-à-vis des autres, tu ne les gagneras pas. Il n'y a que l'humilité qui gagne les autres. Un chrétien, son caractère, c'est l'humilité. Jésus, il était doux et humble de cœur. Vous voyez, bien souvent, on n'ose pas s'approcher de nous autres. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour qui on nous prend. Tandis que de Jésus, on osait s'approcher. Les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Ils se sentaient à l'aise avec Jésus. Non pas parce que Jésus commettait les mêmes choses qu'eux, mais justement parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui ne fasse pas les mêmes choses. Eh bien, que nous ayons ce témoignage et que nous ayons une vie d'accueil. Alors, on arrive au troisième cercle d'épreuves qui nous met en face de ces forces mystérieuses du monde invisible, et c'est ce que vous avez vu ce matin. C'est 10 choses. La mort. Qu'en est-il de vous au sujet de la mort? Elle est vaincue. Par qui? Par le Seigneur. Et qu'est-ce qui fait craindre la mort? L'inconnu, oui. Mais après la mort, qu'est-ce qui suit? Il suit un jugement, et les gens se disent bien, il doit y avoir quelque chose. Pendant des années, peut-être, on n'y a pas pensé, on a tout nié, et puis tout d'un coup, on réalise que c'est pas possible, que tout se finisse par la mort. Ils sont enterrés comme un chien. Mais non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui doit rester. Alors on a peur. La mort, pour beaucoup, c'est le roi des épouvantes, des épouvantements. Nous lisons ça dans Job. Mais pour le croyant, la mort a perdu son aiguillon. Au mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, sa victoire. Nous savons que quelqu'un a passé par la mort, c'est le Seigneur. Il a frayé un chemin à travers la mort. Alors nous n'avons plus de crainte de la mort. Parce que la mort, c'est le salaire de quoi? C'est le salaire du péché, Romains 6. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, qui est-ce qui a payé le salaire de notre péché? C'est Jésus. C'est dans la mort de Jésus que le salaire de notre péché a été payé. De sorte que nous sommes délivrés de toute dette. Mais, évidemment, nous ne savons pas quand la mort viendra, si le Seigneur n'est pas revenu, nous prendre avant pour nous enlever auprès de lui, il est possible que nous devions passer par la mort, hein, parce que il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas. Et alors nous ne savons pas le jour et nous ne savons pas l'heure. Ecclésiaste 9, verset 12. Et personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Alors, est-ce que c'est effrayant pour nous, cette incertitude, concernant le jour de notre mort? Non. Faut pas être prêt parce qu'on est malade et qu'on pense qu'on va mourir. On est peut-être en pleine forme, comme vous aimez à le dire. Et puis, on est peut-être tout près du tombeau. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être malade pour mourir. S'il retirait son esprit sans tout, toute chair expirerait en temps. Alors il y a l'heure de Dieu que nous ne connaissons pas. Alors l'apôtre Paul dit, ben moi je ne sais pas, mais je suis assuré d'une chose, Philippiens 1, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Nous devons avoir une mort à la gloire de Dieu. C'est dans le plan de Dieu qu'un chrétien ait une mort qui glorifie son maître. J'en suis persuadé. Il est dit cela pour l'apôtre Pierre. Le Seigneur lui annonce par quelle mort il glorifierait Dieu. Hein, dans chapitre 21 de Jean. Il y a des morts de chrétiens qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais la mort d'un authentique chrétien qui a marché avec le Seigneur, bien c'est un couronnement. Bien sûr qu'il y a des angoisses physiques au sujet de la mort. Ce n'est peut-être pas la mort qu'on craignait, mais c'est, comme le disait Montaigne, le mourir. Le mourir. Mais là aussi, vous pouvez faire confiance. Et si vous avez une angoisse, vous pensez au Seigneur qui a été angoissé. Et il absorbe votre angoisse. Donc la mort n'est plus pour nous une épouvante. Et nous pouvons, nous ne serons pas séparés de son amour. Quel est le psaume qui nous le dit? Même en marchant par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. Le bon berger sera là. Alors maintenant, vous ne craignez plus la mort, mais vous craignez la vie. Hein? Parce qu'au fond, quand on est mort, c'est fini la lutte. Hein? Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de possibilité de chute. Alors, qu'est-ce que je dois choisir? L'apôtre Paul dit, si je dois vivre, il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Mais si je dois mourir, c'est une catastrophe. C'est un gain. Être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. On sait cela. Alors, il faut que ça devienne un fait, une réalité. Mais, si je dois vivre, bien malgré les dangers, malgré les tentations, malgré les convoitises, que j'aurai encore, que je connaîtrai encore, parce que j'ai la chair jusqu'au dernier moment. Je sens que c'est peut-être pas avantageux de vivre, mais ça vaut quand même la peine. Et un vrai chrétien, il aime la vie. Il ne demande pas la mort. Il y a eu des croyants qui ont demandé la mort à certains moments. Il y a eu Élie, il y a eu, oui, des prophètes, il y a eu Jonas. Et puis, qui? Job. Oui, à certains moments, mais bien sûr. Mais il faut tenir le dernier quart d'heure. Puis, au moment où le Seigneur le voudra, il nous prendra. Mais, est-ce que la vie, est-ce qu'il y a des circonstances dans la vie qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Mais, pour ceux qui sont partis, Dieu les a pris de devant le mal. J'aime beaucoup ce Ésaïe 57. Pour nos bien-aimés qui nous ont été repris, eh bien, le Seigneur les a retirés de devant le mal. Il ne peut plus rien leur arriver. Ils sont dans la paix, ils se reposent dans l'attente de la résurrection. Mais alors maintenant les anges. Les anges, un domaine mystérieux. Vous avez peur des anges? Qu'est-ce que nous apprenons sur les anges? Hébreux, chapitre 1, qu'est-ce qu'il est dit d'eux? Ce sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent périr. Alors, les anges ne veulent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu emploie ses anges. Les enfants connaissent leurs anges qui voient la face de leur père dans les cieux. Et il y a évidemment des anges qui sont devenus des démons. On le voit plus loin. Mais, donc, s'il est question des anges, nous savons que les anges, Dieu s'en sert pour notre bien, pour nous préserver. Et quand nous connaîtrons toutes choses, nous verrons que souvent nous avions un ange qui nous a protégés. Les dominations. Alors là, les dominations, qu'est-ce que c'est? Vous avez un peu élaboré là-dessus? Colossiens 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de ces dominations? Le Seigneur les a livrés publiquement à la croix. Toutes ces puissances de ténèbres, elles ont été vaincues. Chapitre 2 des Colossiens. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alors, est-ce que nous sommes encore sous la loi? Non. Parce que c'était la loi qui nous condamnait. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Alors, sachez que le diable a été vaincu à la croix, que toutes les puissances démoniaques ont été vaincues à la croix. Alors nous devrions être délivrés de toute possession satanique. Mais vous voyez comment ça commence. On ne vit pas avec le Seigneur. Alors on commence une dépression. Et cette dépression, si on ne s'en juge pas, en disant, mais le Seigneur ne veut pas que je sois déprimé, car il a dit, personne ne vous ôte votre joie. Hein. Alors, donc, c'est Satan qui m'attaque, là. Et puis, voilà que ça devient une obsession, et puis, finalement, ça devient une possession. Alors, je refuse la dépression, je repousse l'obsession, et puis, je sais que le Satan ne peut pas me posséder. Si nous nous sommes jugés, si nous nous jugeons dans notre chair, si nous portons dans la chair la mort du Seigneur, eh bien, le diable n'a pas de tête de pont en nous, il ne peut pas s'installer en nous. Il ne peut pas s'installer en nous. Parce que le Seigneur nous a dit et nous rend. Alors donc, les dominations sont vaincues. Maintenant, les choses présentes. Moi, les choses présentes. Est-ce qu'elles vous troublent? C'est évident quand on entend des mauvaises nouvelles. Ce sont les choses présentes. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? La bonne nouvelle. Alors les choses présentes sont entre les mains de Dieu. Puis les choses à venir, qu'elles vous font peur? Cet avenir inconnu, qui est-ce qu'il connaît? Votre avenir est-il assuré? Sur la terre et dans les cieux. Et alors voyez-vous, je vous cite ici au sujet des choses présentes et des choses à venir, 1 Corinthiens 3. Pour moi, c'est un verset capital et qui rejoint encore ce Romain 8, chapitre 3 des Corinthiens, le verset 22e. Qu'est-ce que vous lisez? Verset 21. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, est-ce que vous le croyez? Mais il faut que ça devienne... C'est un fait, tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, c'est l'apôtre Pierre. Hein. Soit le monde, figurez-vous que le monde, il ne nous possède pas, il est à nous. C'est pas lui qui nous possède. Mais le monde, c'est le monde de notre Père aussi. On peut le considérer comme le monde de notre Père, mais on n'est pas esclave du monde. Le monde. Puis, la vie, elle est à nous. Et qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le Seigneur. C'est quelque chose, je suis là. Le chemin, la vérité, est la vie. Il est la vie, comme il est la lumière, comme il est la puissance, comme il est toute chose. Il est notre paix. La paix, c'est Jésus, c'est toujours quelqu'un. Alors, tout est à vous. Soit membre, soit vie, soit la mort. La mort, elle est à nous. C'est pas elle qui va nous posséder. Nous, la posséder. N'est-ce pas? Il y en a qui croient que pour posséder la mort, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se suicider. C'est ça pour eux. Posséder la mort, c'est mettre fin soi-même à ses jours. Je possède ma mort. Je meurs au moment où je le veux. Non. La mort, elle est à nous quand nous sommes au Seigneur. Parce que lui, il est mort sur la croix. D'une défaillance? Non. Comment est-ce qu'il est mort? Il a poussé, hein? Grand cri. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il avait tout accompli. Oui. Donc, vous voyez, la mort, elle est à vous. Soit mort. Alors, maintenant, soit chose présente. Vous voyez? Elles sont à vous, les choses présentes. C'est pas les choses présentes qui doivent nous dominer ou nous troubler. Les choses présentes, elles sont à nous. Et les choses à venir, elles sont aussi à nous. Tout est à vous. Et alors, verset 23, il est répété, tout est à vous, et vous, vous êtes à qui? vous êtes à Christ, et puis Christ, il est à Dieu, alors nous nous rejoignons. Nous sommes en Christ. Puis ensuite, il est parlé des puissances. Et les puissances. Et encore ces puissances. Qu'est-ce que c'est que ces puissances? Mais on y a vu les forces de la nature qui se manifestent subitement. Et Jésus, il est au-dessus de tout puissance. Alors en lui, étant assis en lui, nous sommes aussi au-dessus de toutes les puissances, quelle que soit ce qu'on entend par puissance. Lisez Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Dieu a déployé donc la vertu de sa force, toute sa puissance, en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, si je dois mourir, je meurs dans l'assurance de la résurrection, puisque Jésus a été ressuscité. Et la même puissance qui a ressuscité le Christ me ressuscitera un jour. Et il a été placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc le Seigneur est au-dessus de tout, et vous, vous êtes où? Assis en lui dans les lieux célestes. Croyez cela, ça c'est un fait. C'est pas une question de sentir, Dieu vous le dit. Alors, jouissez de cette position, Dieu ne vous ment pas. Alors, après les puissances, il y a la hauteur. Est-ce que vous redoutez la hauteur? Vous avez le vertige? La hauteur? Beaucoup de commentateurs voient dans cette expression la hauteur les a. Et vous savez que beaucoup de gens consultent les astrologues. La hauteur, les uns. Ils veulent connaître leur avenir par les uns. Alors ils croient cela, tout ce que les astrologues leur disent. L'astrologie. Le destin. Alors, on cherche son avenir dans les uns, dans les planètes, mais n'ont aucun pouvoir. Le Seigneur vous dit que tout cela n'a aucun pouvoir. Et il vous défend l'astrologie. N'allez pas chez les astres. Puis la profondeur. Oui. Mais la hauteur, qui est-ce qui est descendu de cette hauteur? C'est Jésus. Qui est-ce qui est dans cette hauteur? C'est Jésus. Puis la profondeur, c'est lui. Il est descendu au plus profond. Notre destin. Donc la profondeur. Au-dessous de vous, qu'est-ce qu'il y a? Dans la profondeur? Les bras éternels. Hein? C'est ce que dit la parole. Au-dessous de vous sont les bras éternels. Mais nous connaissons la parole, nous connaissons ces choses. Enfin, nous les connaissons si nous avons lu la parole. Et si nous l'avons retenue. Et si nous nous sommes dit, mais c'est pour nous qu'il a écrit cela, notre Père Céleste. C'est pas des lettres, une lettre pour les autres, c'est une lettre pour moi. Ça me concerne. Puis même, aucune créature ne pourrait partir. Quelle qu'elle soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Tout est à vous.
Pourquoi il dit dans ma vie que la colombe ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas? Moi j'avais quelquefois quand il est mort. Parce qu'il y a des gens qui sont morts.
Oui, mais c'est vrai aussi, oui. On peut trouver bien des choses. Mais il n'y a rien que tu les traînes en bas, que tu les traînes en haut. Aucune puissance. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont d'une crédulité incroyable, tout en étant incrédules. La crédulité est chez les incrédules. Alors, la foi, elle devrait être où? Chez les croyants. Si vous croyez, vous devez avoir plus de foi. Augmente en nous la foi. Parce que si notre foi, elle peut être petite, mais elle doit devenir plus grande. Et comment est-ce que la foi augmente? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez que votre foi augmente, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut lire la Bible. Avoir faim de la Bible, être affamé de cette parole, ne plus y voir simplement les histoires d'un autre peuple et d'un autre âge, mais vous dire, comme Dieu te l'avait découvert, que l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. On s'y retrouve dans tous ces hommes. Oui, et tu as fait le lien. Ah oui, mais ça c'est l'esprit d'imitation. Vous n'avez pas à imiter les hommes. Ananias et Saphira, on a déjà étudié cela aussi ici. Eh bien, évidemment, ils ont vu Barnabas qui a fait un grand don à l'Église, il a vendu son champ, il a apporté le prix à l'Église pour aider les pauvres. Ça fait bien, hein. Voilà. Eh bien, moi, on pourrait faire la même chose. Alors, ils n'avaient pas la foi de Barnabas. Et ils ont dit, bien, oui, on va faire aussi ce geste, mais on va garder une foi pour la foi. Ils pouvaient le faire. N'est-ce pas? Ils pouvaient le faire. Mais, quel a été leur péché à Ananias et Saphira? Ils ont menti. Ils ont fait croire que c'était le prix du champ qu'ils donnaient, alors qu'ils en avaient gardé. Pas. Mais l'apôtre Pierre leur dit, mais vous étiez libres de faire cela. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est l'hypocrisie religieuse. Hein. C'est ça dépasser la mesure de foi. Dieu demande à des gens plus cadeaux, parce qu'il connaît notre mesure de foi. Mais si je veux avoir simplement l'esprit d'imitation, tiens, celui qui fait ça, ben moi je vais faire ça. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça? C'est que tu n'en es pas du tout capable, alors tu vas tout rater. Et tu ne vas pas honorer le Seigneur. C'est pourquoi je ne me mêlerai pas de choses que je ne connais pas. Dieu ne me demande pas de me mêler de ce que je ne connais pas. Ou de faire croire que je connais ceci, ou que je connais ça. Parce qu'on est toujours oublié. Et ça, c'est un péché. L'hypocrisie. Soyez vous-même. C'est une des dernières paroles que j'ai entendues de mon cher père. Je n'étais pas là, il est mort, j'étais dirigé à un camp. Il avait 80 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, Gaston, sois toi-même. Une personne, sois toi-même. Regarde-toi. Sois toi-même. C'est vrai. Mais je ne peux être moi-même qu'en étant en Christ. Il est suffisant. Nous allons terminer. Vous avez encore un quart d'heure qui va nous permettre de modifier la salle. Et nous nous retrouverons à 1h30. Pour un dernier message, très court, mais ensuite c'est votre heure. C'est l'heure du partage et qui doit aboutir à la centaine au mémorial du Seigneur et à notre communion les uns avec les autres. Est-ce que vous avez eu communion un peu les uns avec les autres? Est-ce que nous nous aimons? Vous êtes sûr?
Vous avez des antipathies? Des sympathies? C'est tout ça qui nous conduit. Nous ne connaissons personne selon la chair. Il n'est pas question de sympathie, d'antipathie, des questions que nous sommes les créatures de Dieu. Nous venons de milieux différents, mais nous nous aimons parce que nous avons quoi pour nous réunir? Le même sauveur. Et je voudrais que cet après-midi nous réalisions vraiment cette unité du corps de Christ. C'est pas que nous sommes membres d'un groupe ou d'un autre, mais nous sommes membres de quoi? Du corps de Christ. Il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Dieu notre Père, nous te confions maintenant ta parole. Et nous voulons recevoir au plus profond de nos cœurs et dans notre sensibilité cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à vivre, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune puissance, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour que tu nous as témoigné et qui est en Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, et nous te demandons que cette retraite ait des retombées sur tous les membres de nos familles, quand nous les retrouvons, que nous puissions être de ceux qui humblement fassent connaître les grâces que tu nous auras données individuellement pour ta sauveur. Amen.
Amen.